Aujourd'hui, vraiment content d'ajouter ma voix à cette série sur la fin des temps et moi. Donc, le « et moi » est très important. On ne veut pas seulement énoncer des faits ou parler de l'Apocalypse. On veut voir comment ça nous concerne, nous, comme chrétiens, tout ce thème-là de la fin des temps. Et plus j'étudie ce thème, plus je réalise que ça prend une part vraiment importante dans la Bible et dans le Nouveau Testament, tout ce qui touche à la fin des temps et même dans l'enseignement de Jésus. On voit qu'il y a sept paraboles différentes qui nous parlent du thème que je vais apporter bientôt dans un instant. Sept paraboles de Jésus qui nous parlent de cela. Il y a 319 versets dans le Nouveau Testament qui abordent le thème de ce matin. Okay? Ça, c'est un 25e du Nouveau Testament qui parle de près ou de loin de ce que je vais prêcher ce matin. Et ce que je vais prêcher ce matin, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'incroyable retour de Jésus ». L'incroyable, pourquoi? Ben, si vous ne savez pas pourquoi c'est incroyable, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre. C'est assez incroyable comment tout ça va se passer. C'est assez fou, c'est assez capoté comment tout ça va arriver. Okay? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et ce matin, je vous parle du premier retour de Jésus. Il y a deux retours? Oui. On va démêler tout ça dans les prochaines semaines. Je vous parle du premier retour de Jésus, c'est-à-dire la première résurrection et l'enlèvement de l'Église. Et alors que je préparais ce message, je me suis rendu compte que c'est la première fois que je prêche sur ce thème-là dans ma vie de pasteur. J'ai déjà abordé, mais ce matin, on prend le temps d'explorer les textes qui touchent l'enlèvement, le retour de Jésus, le moment où il va revenir nous chercher. Est-ce que vous êtes excités de ça ce matin? Moi, oui, en tout cas. Et on va lire ensemble notre texte principal, se retrouve dans 1 Thessaloniciens 4. Et on va lire à partir du verset 13 et les versets suivants. Et l'apôtre Paul ici nous explique, nous parle de comment tout ça va prendre place. Et on commence ici au verset 13. Ça nous dit, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, combien vous croyez ça ce matin? Que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, et j'arrête ici pour l'instant. » Le texte commence avec Paul qui vient rassurer l'Église et dire, « Ceux qui meurent là, et qui connaissent Jésus, qui est en communion avec Jésus, inquiétez-vous pas, il y a quelque chose qui se passe après. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie éternelle qui se passe après notre mort. Il y a une espérance qui est solide. Et si vous êtes ici ce matin, j'aimerais vous dire, laissez tomber le néant, la réincarnation, les limbes, ou peu importe les visions que vous pourriez avoir sur la fin de votre vie ou sur la vie après la mort. Jésus ici nous explique qu'est-ce qui se passe après la mort, et on va le voir dans les prochaines semaines plus en détail également. Mais ce qui va arriver en gros, c'est qu'il va venir nous chercher. C'est que nous allons être avec lui pour l'éternité, pour toujours. Et ça, on peut applaudir ça, oui. Cette vérité-là, elle est puissante. Je sais que comme chrétien, on sait ça, on connaît cette vérité-là qu'un jour on va être avec Jésus. On en entend parler régulièrement. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir, d'y penser un instant. Le jour où notre corps va s'éteindre ou que le Seigneur va venir nous chercher, on va le voir bientôt, nous allons être avec Jésus pour toujours. Nous allons être avec lui pour l'éternité. C'est puissant, c'est magnifique, c'est libérateur. Ça nous donne aussi du courage dans la vie, du courage dans les épreuves de la vie. S'il y a une chose qu'on sait, c'est que sur cette terre-ci, il y en a des épreuves. Ta! Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a-tu des épreuves? Il y en a-tu des oppositions, des difficultés, des problèmes, de la maladie, des problèmes financiers, des conflits, puis des ci, puis des ça? Il y en a. Ça fait partie de la réalité de la vie sur Terre. Quand on sait que, par la suite, nous allons être avec Jésus pour toujours, que quand on va mourir, ça ne sera pas la fin, ça nous donne une force de continuer. On a une espérance. Nous ne sommes pas comme les autres qui ne savent pas trop ce qui va se passer avec eux. Nous sommes de ceux qui avons cette confiance en Jésus, en ses promesses et en sa parole. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines de prophéties qui annonçaient la venue de Christ sur terre et la façon qu'il allait mourir et toutes sortes de détails de sa vie. Ça a été prophétisé des centaines et des centaines d'années avant. Et lorsque Jésus est venu sur terre, chacune de ces prophéties, chacune de ces promesses se sont accomplies de façon précise concernant la venue de Jésus, le lieu de sa naissance, comment il allait mourir, comment les gens allaient se comporter autour de lui. Tout ça est prophétisé de façon précise. C'est déjà arrivé. Laissez-moi vous dire que si ces promesses-là sur la venue de Jésus, sur la mort de Jésus se sont accomplies de façon précise, les promesses qui concernent le retour de Jésus vont aussi s'accomplir de façon précise. C'est une certitude. Il y en a qui ont le goût d'applaudir, je le sais, c'est le fun d'applaudir, moi aussi j'aime ça, yes. J'aime l'enthousiasme. Et oui, ça va s'accomplir. Quand on lit ce texte-là aujourd'hui, on peut le prendre comme certain. On peut le prendre comme assuré. C'est comme ça que ça va se passer. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est promis, ça va arriver de même. On n'a pas besoin de douter, de remettre en question, de dire oui, ça va-tu vraiment arriver? Il va-tu vraiment... Ça va se passer comme c'est dit, de façon claire et certaine. C'est une parole du Seigneur. OK? Vous êtes là? Six. Ça nous donne la perspective du recul de savoir qu'on va être avec Dieu. Qu'on a un avenir d'assurer et de sécuriser avec lui. J'habitais Charlevoix pendant 10 ans, formidable région. Qui ici est déjà allé dans Charlevoix? Qui ici n'est jamais allé dans Charlevoix? D'accord? Si vous n'êtes pas encore allé, prochaines vacances, là, trouvez-vous un chalet, quelque chose, puis allez visiter cette belle région-là. Et quand j'habitais là-bas, à un moment donné, c'était la fin de l'hiver, et là, j'étais tanné de l'hiver, j'avais le goût de bouger, j'avais le goût d'action, et j'ai dit à ma femme, je m'en vais monter une montagne en raquette. Elle m'a dit, ben garde-toi. Fait que là, j'ai pris mon sac à dos, mon appareil photo, mes grosses raquettes, j'étais toute prête, j'avais des trucs à boire, à manger, des trucs de survie si jamais je mourais dans la montagne. Ou si je me faisais attraper par un Yeti ou quelque chose. Alors, je me suis mis en chemin à monter. Puis là, c'était le mois de mars, je pense. Puis il faisait chaud quand même. J'étais trop habillé un peu. Là, j'avais chaud. Je suais. Tu sais, je suais pas mal. Puis là, j'avais toutes mes affaires avec moi. Puis là, ça commençait à être tough. Ça commençait à être difficile un peu. Puis j'ai commencé à avoir des crampes dans les jambes. Y a-t-il d'autres gens qui vous faites des crampes dans les cuisses occasionnellement? Oui. Bon, y a plein de gens qui sont compatissants vers moi. Donc, j'ai commencé à avoir des crampes, mais c'était douloureux. Puis tu sais, le gros muscle ici, là, le muscle là, tu sais. Puis, la crampe, là, je buvais. Là, en tout cas, je me suis rendu jusqu'en haut. J'ai persévéré parce que je savais quelque chose. Je savais qu'en haut de cette montagne-là, j'allais avoir une vue à couper le souffle. Une vue spectaculaire sur 360 degrés sur le cratère de Charlevoix. Et oui, il y a un cratère dans Charlevoix. Quand vous irez là-bas, vous irez au bureau touristique, ils vont tous vous expliquer ça. Et là, tu as une vue sur les montagnes. Fait que là, je persévérais, je continuais malgré les crampes, malgré la sueur. Et à un moment donné, ce qui arrive quand tu montes, c'est que ça devient plus froid. Qu'est-ce qui arrive à la sueur quand ça devient plus froid? Tu grelottes, t'es comme pas bien, OK? T'as chaud, t'as froid, t'es pas bien, mais je persévérais, je continuais. Et rendu en haut, c'était magnifique. J'ai pu faire des photos, c'était super. J'ai une descente difficile aussi. Et ça a été un bel événement. Et je vous compte ça, pourquoi? Parce que dans la vie aujourd'hui, il y a des épreuves, il y a des difficultés, c'est pas toujours facile, mais on persévère, on continue, on lâchera pas. On va être de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin dans la vie chrétienne, jusqu'au dernier jour, jusqu'au retour du Seigneur, parce qu'on sait ce qu'il y a en haut de la montagne. On sait qu'à la fin, on est avec Jésus pour l'éternité. Là, tu as le droit d'applaudir et de dire Amen. On va être avec lui pour toujours. ça va être époustouflant. Ça va être formidable. Ça va être incroyable. Donc, soyez rassurés. Il y a quelque chose après la mort. Il y a une vie après la mort. Et là, ça continue ici. Il y a toutes sortes de choses qui vont être dites qui sont vraiment fortes, qui sont incroyables, comme dans mon titre. Okay? Verset 4, chapitre 4, verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ça va être une journée spéciale, ça. Ça va être une journée assez spéciale. Il y a un jour où tout ça va arriver, et la Bible nous dit un peu plus loin, en un clin d'œil, en un instant, tout ça va se produire à un moment que Dieu lui-même connaît, qu'il a fixé d'avance, un signal qui est donné, la voix d'un archange. Je ne sais pas comment ça sonne, la voix d'un archange. J'ai hâte d'entendre la voix d'un archange. Et la trompette de Dieu, je ne savais pas qu'il jouait de la trompette. Ça va être quelque chose. Il y a un jour que l'histoire de l'humanité va vraiment changer et basculer. Si ça arrive pour de vrai, là, ça va changer. Là. On est d'accord? Notre vie quotidienne, là, la vie depuis des milliers d'années sur la Terre, il va y avoir un moment où tout ça va basculer, où tout ça va changer, où tout ça, il y a une date de fin à notre monde. On parle de la fin des temps. Oui, il y a une date de fin. Il y a une date de péremption. Okay, à un moment donné, que ça ne marchera plus. Et dans le début de tout ça, il y a l'enlèvement qu'on va voir dans un instant, mais il va y avoir un moment où notre monde tel qu'on le connaît va vraiment changer, va vraiment basculer. Il va se produire un événement puissant, soudain, qui est tout sauf banal. Vous en conviendrez avec moi. Nous sommes à l'aube d'un changement important dans l'histoire. On ne sait pas c'est quand, je le sais, on ne sait pas c'est quand. La Bible le dit sans arrêt. Vous étiez là la semaine passée aussi, Pasteur Claude le dit, c'est vrai. On ne sait pas c'est quand ça va arriver, mais on connaît les signes qui entourent la fin des temps et le retour du Seigneur. Dans les prochaines semaines, on va parler de ces signes-là et on vous invite aussi à écouter la série qui est en ligne pendant la semaine pour suivre tout ça. Mais on sait que nous vivons dans des moments spéciaux, particulier, annonciateur de la fin des temps et du retour de Jésus. Et le monde tel qu'on le connaît va changer. Va changer de façon incroyable. Ce n'est pas une fable chrétienne. Ce n'est pas une histoire de grand-mère. Ça va vraiment arriver. Et je le dis avec sérieux, ça va vraiment arriver. Et aujourd'hui, bien sûr, que ma question, c'est, es-tu prêt pour ça? Vas-tu faire partie de ceux qui vont rejoindre Jésus pour toujours? Ta vie appartient-elle à Christ aujourd'hui? Si tu n'es pas certain, dans un instant, tu vas avoir l'occasion de donner ta vie à Jésus, de faire partie de ceux qui vont être enlevés. Ça va arriver de façon soudaine et ça va tout changer. Et ça me fait penser à une histoire qui est vraie, qui est arrivée dans ma famille. Je n'aimerais pas de nom, mais il y a quelqu'un dans ma famille qui, à un moment donné, a eu un gros mal de ventre, immense mal de ventre. C'était une jeune femme, mal de ventre. Et là, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle s'est rendue à l'hôpital. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle a donné naissance à un enfant. Elle a été enceinte sans le savoir. Et elle a donné naissance. C'est arrivé dans mon entourage. Et vous avez peut-être vu des émissions à télé là-dessus. Là. Je sais que ça existe. Je n'ai pas vu, mais je sais que ça existe. Là. Et c'est assez particulier. Et elle a donné naissance à un enfant. Et croyez-moi, en un instant, sa vie a changé. Y a-t-il des parents dans ce lieu? Y a-t-il des gens qui ont eu des enfants? En un instant, en un clin d'œil, c'était peut-être pas un clin d'œil, là, c'est un long clin d'œil si on veut, mais sa vie a changé. C'était plus la même vie. Elle avait un être humain à s'occuper. Une des raisons pourquoi ça dure 9 mois, c'est qu'il faut que tu te prépares à l'arrivée d'un enfant, mentalement, entre autres, OK? Physiquement aussi, mais elle n'a pas pu se préparer, c'est juste arrivé, et là, elle a dû se débrouiller. Et le retour de Jésus va être soudain. On ne sait pas c'est quand. La Bible nous dit que ça va être comme un voleur qui vient dans la nuit. On ne sait pas ça va être quand, ça va être soudain, et ça va tout changer. Ça va tout changer. Le monde tel qu'on le connaît n'existera plus. tout va changer. Si on regarde au verset 16, prendre de l'eau. OK, au verset 16, ça dit ceci. Donc, le son de la trompette, l'archange, le signal donné, tout ça. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc par ces paroles. Dites avec moi, wow! OK, il y a des fois on prêche sur des choses de la vie de tous les jours. Là, on prêche sur de quoi d'assez flyé, là. C'est un mauvais jeu de mots, là. Hey! Imaginez, au son de la trompette, un signal donné, la voix de l'archange, tout ça, les morts qui étaient chrétiens, les morts en Christ, vont ressusciter avant nous autres, c'est ça que la Bible dit, c'est ça que Paul nous dit, ils vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous, si on n'est pas encore morts, ce qui va arriver, c'est qu'on va être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs aussi. Faites avec moi. Aïe, 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 aïe. Hey, c'est spécial quand même, là. Vous avez dit que c'est incroyable, le retour de Jésus. C'est pas une affaire, c'est pas quelque chose de quotidien, de relax. On va être enlevés avec le Seigneur. On va le rejoindre dans les airs. J'aimerais vous en dire plus. Je ne peux pas m'avancer trop sur les détails. Je peux juste vous lire un autre texte, par exemple, qui nous parle de la même chose ici. Et c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Ça va apparaître à l'écran. Ça dit, c'est encore Paul qui parle. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Ça nous donne un peu plus de détails sur la même affaire qui va arriver. On sait qu'on va être transformé. Notre corps actuel va être transformé. Là, je ne peux pas vous dire, on va avoir l'air de quoi, est-ce qu'on va avoir la même face. Bon, on en parlera plus tard de tout ça, ce que la Bible dit sur l'apparence ou la vie après la mort, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va arriver un moment où Jésus va revenir. Lors de son premier retour, la Bible nous dit qu'il va être dans les airs. Il ne va pas se poser sur la terre, c'est ça que la Bible nous dit, et qu'on va le rejoindre. Bien sûr, on peut voir ici quelque chose qui est probablement spirituel, OK? Je ne sais pas si notre corps va vraiment monter dans les airs, mais ce que je sais, c'est que c'est ça que la Bible nous dit et que ça va être formidable, que ça va être complètement fou, que ça va être incroyable. Et ce que j'aime dans ce texte-là, ça dit qu'on va être pour toujours avec Jésus à partir de ce moment-là, pour toujours avec lui. Et non seulement on va être pour toujours avec lui, mais on va être pour toujours avec tous nos frères, toutes nos sœurs chrétiens, et tous ceux qui ont reçu Dieu dans leur vie à travers les âges. Rendez-vous compte à quel point ça va être fou. Hey, on va pouvoir bruncher avec Moïse. Parce qu'il va avoir un banquet. On va en parler aussi de ça. Mais ça va être incroyable. On va être avec Dieu pour toujours. Le Seigneur va venir rassembler son Église. Il va venir chercher son Église. Quel moment incroyable ça va être. Ça va se passer en un clin d'œil. Et alors que je priais ce matin, que je réfléchissais à tout ça, le Seigneur me mettait à cœur que nous, on a hâte à ce moment-là, mais que lui a vraiment hâte à ce moment-là. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a hâte de passer l'éternité avec toi. Tu es un homme, une femme, un jeune, précieux pour lui. Il a hâte d'être en proximité avec toi. Nous, on a hâte d'être dans sa présence, mais lui a hâte d'être dans notre présence aussi, de vivre cette proximité, cette intimité avec Dieu à partir de ce moment. Tu es précieux pour Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Il t'aime et lui aussi soupire après ce moment où on va tous être réunis, où l'épouse de Christ, qui est l'Église, va rejoindre son époux, qui est Jésus. Quel moment incroyable ça va être. Ici, j'ai un texte, ici, c'est une petite mise en garde contre cette pensée que ça n'arrivera pas, tout ça. Okay, dans 2 Pierre 3, verset 3, ça dit ceci. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où sont les promesses de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Il existe des gens, même des chrétiens, qui ont cette attitude-là. Qui se disent, ouais, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus revient, mais il n'est pas revenu, puis va-tu vraiment revenir? Puis ils mettent en question, puis ils se moquent un peu de tout ça. Et moi, j'ai dit ce matin, attention à cette attitude de moquerie. Attention, parce que c'est une attitude qui est révélée, dévoilée, une attitude typique de la fin des temps. Des gens qui se moquent. Des gens qui se moquent de l'Église, qui se moquent de Jésus, qui se moquent de l'Évangile. Qui parle contre, qui parle à la légère des chrétiens, de l'Église et même du retour de Jésus. Et attention de ne jamais devenir un moqueur. Attention, veillons sur notre cœur, veillons sur nous-mêmes. Toutes ces choses vont arriver. Ne soyons pas comme ceux qui disent, « Ouais, mais le monde a toujours été le même, il n'est jamais arrivé d'affaire. Pourquoi tout d'un coup, là, Jésus reviendrait? » Mais en fait, ces gens-là se trompent, comme le texte va nous le dire. Il est déjà arrivé quelque chose comme ça, au temps de Noé. Et c'est là que le texte s'en va. 2 Pierre 3, verset 5. « De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux. Et au milieu d'elle, ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu réservé pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » Ici, le texte nous amène à cette histoire de Noé, qui est une histoire de la Bible qui est réellement arrivée. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas les fables de La Fontaine, c'est vraiment arrivé. Noé, la destruction de la terre, on pourrait en parler une autre fois dans une autre réunion, mais c'est un texte qui est historique. Ça a vraiment pris place. Il est déjà arrivé un moment dans l'histoire de notre humanité où les humains étaient tellement méchants, tellement éloignés de Dieu, tellement rebelles que le Seigneur, que Dieu est venu submerger la terre. Et comme vous savez, il y a juste une famille qui a survécu, c'est la famille de Noé. Et Noé a construit une arche, ils sont entrés dans l'arche, ils ont été épargnés du jugement, épargnés du jugement de la planète. Et aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de sérieux. Pour moi, on compte cette histoire-là aux enfants souvent de façon légère, mais pour moi, c'est une des histoires les plus dramatiques de toute la Bible. C'est dramatique, c'est grave, c'est terrible. Toute la terre est disparue à ce moment-là. Tous les habitants sont morts, noyés. C'est grave. Et l'arche et la porte de l'arche, j'aimerais vous dire qu'en ce moment même, ce matin pendant qu'on se parle, la porte de l'arche est encore ouverte pour toi. Tu peux encore échapper au jugement de Dieu. Tu peux encore être sauvé ce matin. L'arche représente Jésus, l'Église. Des fois, on peut comprendre pourquoi, on sait qu'il y avait pas mal de vie là-dedans. Mais la porte représente aussi Jésus. Jésus a dit de lui-même qu'il est la porte par laquelle on doit passer pour être sauvé. Il est la porte étroite. Aujourd'hui, la porte du salut est ouverte. Aujourd'hui, c'est encore possible pour toi d'entrer par Jésus-Christ, qui est le seul chemin vers la vie et vers la vie éternelle. Tu peux dire, moi, je ne crois pas à ça, moi, je pense que si, moi, je pense que ça. À la fin des temps, il n'y aura pas ce genre de discussion-là. Il va y avoir Jésus qui va apparaître, qui va être là, qui va revenir, qui va se dévoiler à tous les êtres humains. Et aujourd'hui, si tu es dans ce lieu et que ta vie n'appartient pas vraiment à Dieu, ta vie n'est pas vraiment en règle, en ordre avec Dieu, quitte pas ce lieu sans donner ton cœur à Jésus. Je ne vais pas te faire peur, mais oui, un peu. Parce que c'est sérieux. C'est sérieux. La Bible nous parle du ciel, de l'enfer, d'une éternité avec Dieu formidable, mais aussi d'un enfer, d'un lieu éternel, de souffrance, de douleur, séparé de Dieu Et je veux que personne n'aille là. C'est pour ça que l'Église existe. C'est pour ça qu'on est là. On veut que le plus grand nombre soit sauvé. Pourquoi Jésus ne revient pas? Jésus ne revient pas parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. On peut applaudir, oui. Il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Il veut que Drummondville, les villes, les villages partout autour puissent découvrir Jésus. Il faut qu'au jour de l'enlèvement, là, il faut que ça fasse une méchante différence à Drummondville. Il faut que ce jour-là, là, que ça soit la perturbation totale parce qu'il y a trop de chrétiens qui ne sont plus là. Il faut que ça soit ça qui arrive. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on se rassemble, qu'on est là, parce qu'on veut que tout le monde soit sauvé. Donc, si tu es ici ce matin, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je plaide avec toi. Donne ta vie à Jésus. Maintenant, là, donne-lui ton cœur. Repends-toi de tes péchés. Le Seigneur va t'accueillir. Tu vas être le bienvenu auprès de lui. Dans un instant, je vais faire un appel officiel pour ceux qui n'auraient pas encore donné leur vie à Jésus. Mais seras-tu enlevé? Feras-tu partie de cet enlèvement? Dieu le sait qui va être enlevé, là, mais c'est ceux qui vont lui avoir donné leur vie, qui vont vivre pour lui, qui vont être des chrétiens. Bien sûr, on devient chrétien par la foi en Jésus. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé. Vous connaissez ces textes-là. La Bible nous dit aussi, par contre, que la foi sans les œuvres est... Tu as besoin de t'activer pour Dieu. Tu as besoin de bouger pour Dieu. Les 7 paraboles qui nous parlent du retour de Jésus nous disent « Veillez, soyez prêts, active-toi pour Dieu, bouge, parce qu'un jour, il va revenir chercher son Église et je veux faire partie de ceux que le Seigneur va prendre. » On poursuit notre texte dans 1 Thessaloniciens, on est au chapitre 5, au verset 1. Restez avec moi, c'est le dernier point qu'on va vraiment prendre le temps de regarder ensemble quelques textes. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Je poursuis ici au verset 4. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi, de l'amour, ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Le Seigneur va revenir. Il va revenir nous chercher. En un instant, il va avoir l'enlèvement, la résurrection de ceux qui sont morts. Et le Seigneur nous invite et nous encourage à ne pas dormir spirituellement. Au Québec, on dit dormir au gaz. Alors, on a tous déjà rencontré quelqu'un qui dort au gaz. Des fois, un collègue de travail, on s'active, puis tout ça, puis lui, ben, ou elle, ben, est un peu trop relaxe, là, tu sais. Et le Seigneur nous invite, à la fin des temps, quoi faire? Comment l'Église devrait-elle se comporter en attendant le retour de Jésus? 3 mots ici à retenir. Se réveiller, veiller et travailler. Okay? Si tu pars avec ces 3 mots-là cette semaine, je vais avoir réussi ma job. Se réveiller, veiller et travailler. Tout d'abord, se réveiller. Es-tu vivant spirituellement? Où en es-tu dans ta vie spirituelle? Où en es-tu dans ta communion, dans ta relation avec Dieu? Où en es-tu dans ta vie de prière, dans ta vie d'adoration, dans ta vie de lecture de la parole? Où en es-tu dans ta... Es-tu vivant spirituellement? Es-tu un être généreux? Es-tu quelqu'un qui est en communion, en connexion avec Dieu? As-tu à cœur le salut des autres? As-tu à cœur ton Église? As-tu à cœur de servir? Es-tu vivant et réveillé et bouillant pour Dieu? Si ce matin, tu dis, pas tant que ça finalement, eh bien, tu es à la bonne place. Le message pour toi, c'est réveille-toi. Approche-toi de Dieu. Prends au sérieux ta vie chrétienne. Retourne à la prière. Retourne dans une vie où ton témoignage honore Dieu. Retourne dans une vie où tu oses parler de lui. Redeviens bouillant. Retrouve la flamme pour Dieu. Réveille-toi et sers le Seigneur. Si on va dans Matthieu 24, et on va relire ce texte éventuellement, on va aller à la fin du chapitre, qui est un chapitre magnifique, bien sûr. Et verset 40, ça nous dit ceci. « Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laissera pas percer les murs de sa maison. » Verset 44, c'est pourquoi nous, vous aussi, tenez-vous prêts. Dis à quelqu'un à deux mètres en chuchotant, tiens-toi prêt. C'est pourquoi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner de la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Verset 48. Mais si un mauvais serviteur, qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement, il lui fera partager le sort des hypocrites, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces textes sur la fin des temps nous appellent, nous comme croyants, à nous réveiller, à veiller. Veiller, c'est de se tenir éveillé. C'est un peu comme un sentinelle dans un combat, quelqu'un qui veille, qui regarde au loin si l'ennemi arrive pour pouvoir sonner l'alerte, qui est là, qui est tout là, qui est présent. Veiller, c'est aussi de combattre le sommeil. De combattre le sommeil. Combien ici, vous êtes un couche-tard? Est-ce qu'on va voir les mains des couche-tards de l'Église? Combien vous êtes des couche-tours? Oh, il y a beaucoup de couche-tours! J'appellerai pas chez vous à 11h, d'accord? Et de veiller, c'est d'être de ceux qui combat le sommeil. Avez-vous déjà combattu le sommeil? Tu sais, là, moi, ça m'arrive des fois sur la route, mettons, là. Puis là, puis bizarrement, c'est souvent vers 2-3 heures l'après-midi, là. Puis là, les yeux, ils ferment tout seul. Puis là, tu combats le sommeil. Mais ça, ce genre de combat-là, là, c'est... Sur la route, c'est important parce que ça peut sauver ta vie. Mais dans la vie chrétienne aussi, c'est important. D'être conscient, comment je vais? J'en suis où? Comment est mon cœur? Est-ce que j'ai laissé entrer un péché dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il sorte de ma vie? Comment je me comporte avec les gens qui m'entourent? Est-ce que je suis proche de Dieu? Est-ce que je m'implique? Est-ce que je suis présent à l'Église? Seigneur, je veux veiller. Je veux veiller sur mon état spirituel. Je veux être réveillé pour toi. Je veux être prêt pour ton retour. Je veux contribuer à l'avancement de ton royaume. Et je veux aussi travailler. Ça dit ici, le serviteur qui est là et qui fait rien quand le maître va revenir, ça ira pas bien pour lui. Mais l'autre, celui qui est dans l'action, celui qui bouge, qui travaille, qui sert Jésus, lui va être béni de Dieu. Et aujourd'hui, je t'invite à l'action. Je t'invite à servir Jésus. Je t'invite à bouger pour lui. Du mieux que tu peux, avec les dons que le Seigneur t'a donnés, mais à le servir. Ne laisse pas une trop longue saison dans ta vie sans servir Jésus. Sois actif pour lui. Sers dans l'Église, sers les gens qui t'entourent, bouge. Tu ne peux pas faire beaucoup, fais ce que tu peux. Sers le Seigneur, bouge pour Dieu. Se réveiller, veiller et travailler, c'est ce qu'on est appelé à faire en attendant le retour du Seigneur. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Un jour, tout ce qu'on a parlé ce matin, ça va vraiment arriver. Ça va se produire. Ce que je prie, c'est que chacun, chaque personne qui est ici dans ce lieu, peu importe votre âge, votre background, peu importe, qu'on puisse être de ceux qui vont être avec Jésus pour toujours. Si tu es dans ce lieu ce matin et que tu n'es pas certain d'avoir vraiment ta vie qui appartient à Dieu, tu n'as pas donné ton cœur à Jésus de façon totale, complète. Tu l'aimes un peu, tu le connais, tu viens à l'église, mais ce matin, tu n'as pas cette assurance du salut. Tu n'as pas cette assurance que tu vas rejoindre Jésus pour l'éternité. Avant de quitter ce lieu, je t'invite à prendre une décision. Ça ne concerne pas tout le monde dans ce lieu, mais si c'est juste pour une personne, ça vaut la peine que je prenne le temps pour toi. Donc, si tu es dans ce lieu, pas certain. Oui, tu vois, ça va arriver comme ça. En un éclair, j'ai payé à Nicole pour qu'elle fasse ça. Non, c'est pas vrai. Plus sérieusement, si tu es dans ce lieu et que tu voudrais ce matin donner ta vie à Jésus, tu voudrais ce matin dire, ah oui, moi, je ne veux pas attendre une seconde de plus. Parce qu'on a parlé de l'enlèvement, qu'on ne sait pas c'est quand. Mais on ne sait pas c'est quand notre mort aussi. On peut faire partie de la première gang qui monte aussi. Vous êtes là? Donc, aujourd'hui, la Bible dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on remet à plus tard. Ce n'est pas quelque chose qu'on remet à demain. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit « Mais je vais penser, je vais réfléchir, puis quand je serai prêt, je le ferai ». Non. La Bible nous dit que le salut, c'est toujours pour aujourd'hui. Alors, si tu es dans ce lieu, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire maintenant. On va juste fermer nos yeux, pencher notre tête un instant. Et si un homme, une femme, un jeune, tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, tu veux le faire, tu veux le recevoir dans ta vie, tu sais Jésus t'aime, tu sais Jésus est mort pour toi, il a payé le prix pour tes péchés, il s'est sacrifié à la croix pour toi, il est mort, il est ressuscité, il veut te donner une vie nouvelle, il veut te donner de l'espérance, de l'espoir. Une vie éternelle, mais aussi une vie abondante ici sur cette terre. Donc, si tu es dans ce lieu et que tu as besoin de prendre cette décision ce matin, je t'invite à le faire. Comment le faire? C'est avec un cœur sincère, c'est par une simple prière. C'est aussi avec un cœur repentant qui dit, « Je te demande pardon, mon Dieu, pour mes péchés, mes manquements, ma rébellion, mes erreurs. » C'est avec un cœur humble qui se tourne et qui demande à Dieu de le sauver. Donc, si tu es dans ce lieu, tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, tu n'es pas certain, tu veux revenir à lui, tu veux lui donner ta vie, je t'invite maintenant à fièrement lever ta main et dis-moi, Seigneur, je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout ce que j'ai, je veux vivre pour toi, je ne veux plus niaiser, je veux tout te donner. Il y a des mains qui se lèvent et le ciel se réjouit de voir ta main, de voir ton cœur, de voir la décision que tu prends en ce moment de t'abandonner à lui. Merci pour les 3, 4, 5 personnes qui ont levé la main. Une dernière fois, je demande que quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je veux être en paix avec Dieu. Moi, je veux donner ma vie à Jésus. Merci pour ta main derrière, je t'ai vu. Merci pour ta main devant. Merci. Merci. Merci toi. En plein centre. » Merci. Et vous savez, merci derrière, je t'ai vu aussi. L'important, ce n'est pas tant que moi, je t'ai vu, mais Jésus qui est vivant est ici dans ce lieu et lui, il te voit. Il voit ton cœur, il voit la décision que tu prends en ce moment. Et laisse-moi te dire comment Jésus réagit. Jésus t'accueille. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les gaffes, les erreurs, les niaiseries, il t'accueille, il t'aime, il te pardonne. Et aujourd'hui, si tu lui donnes ta vie de façon sincère, totale, complète, tu peux avoir l'assurance qu'au jour de ta mort ou au jour de son retour, que tu vas le rencontrer, que tu vas voir son visage face à face et que tu vas passer l'éternité avec lui. Ma dernière invitation, vous pouvez baisser vos mains maintenant. Ma dernière invitation serait pour les chrétiens. Vous aimeriez être de ce peuple qui persévère jusqu'à la fin. De ce peuple qui ne se laisse pas assoupir dans un sommeil spirituel, mais de ce peuple qui dit, moi, je veux rester réveillé. Moi, je veux faire partie de ceux qui vont vivre pour Dieu avec joie, avec courage, qui vont veiller sur mon cœur, qui va veiller sur ma vie spirituelle. Je veux servir Dieu et ce, jusqu'à son retour. Jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce qu'il vienne me prendre et que je monte dans le ciel avec lui pour cette trip incroyable. Je veux vivre pour Dieu à fond. Je veux être vivant, bouillant, ardent pour Jésus. Et ce matin, c'était dans ce lieu et pour une raison ou une autre, tu t'étais refroidi. Peu importe la raison, il y a tellement de raisons, de pièges dans lesquels on peut tomber et se refroidir. Si tu t'étais refroidi aujourd'hui, tu aimerais que Dieu embrasse ton cœur d'amour pour lui, je t'invite à te lever debout maintenant et à dire, « Moi, Seigneur, embrase ma vie. Embrase ma vie. Je te donne tout. Je veux vivre pour toi jusqu'à la toute fin, jusqu'à ton retour. Seigneur, je me donne, je m'abandonne. Tu es vivant, tu es puissant. Si toutes les prophéties qui annonçaient ta venue sur terre se sont accomplies, je crois aussi que toutes les prophéties qui annoncent ton retour sur terre vont s'accomplir. Et Seigneur, je ne veux pas vivre ce jugement de la fin des temps. Je veux vivre cette bénédiction de la fin des temps, d'être enlevé et d'être avec toi pour toujours. » On peut tous se lever ensemble, on va terminer dans la prière ce matin. On va terminer en se consacrant à Dieu, en s'offrant à Dieu ce matin, en offrant nos vies, en offrant nos familles. Peut-être que tu vas profiter de ce moment aujourd'hui pour prier pour quelqu'un que tu connais. Prier pour quelqu'un de ton voisinage. Prier pour un conjoint, une conjointe, un enfant, quelqu'un de ta famille, un ami, quelqu'un de ton entourage, afin que lui ou elle aussi puisse rencontrer et découvrir Jésus de façon personnelle. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu en terminant? Est-ce qu'on peut transformer ce lieu en un lieu de prière, en un lieu où on connecte avec Jésus? Seigneur Jésus, on t'aime, on t'adore, on te loue. Tu reviendras un jour. Et Seigneur, nous allons te rencontrer cette journée-là. Seigneur, je prends un instant pour te prier. Pour ceux qui ont levé la main pour te donner leur vie, je te prie pour eux, je te prie que tu les accompagnes dans cette décision, dans ce choix. Seigneur, que ce choix puisse être un choix sérieux, sincère. Seigneur, accompagne-le dans les prochaines étapes. Seigneur, qu'il puisse mettre de côté le péché, qu'il puisse mettre de côté ses mauvaises habitudes, que tu puisses leur donner de la vie, de l'amour, de l'espoir, que ton esprit témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils t'appartiennent. Mets ta bonne main sur eux. Ta bonne main sur eux aujourd'hui. Une action puissante dans leur vie aujourd'hui. Et Seigneur, que chacun d'entre nous, que nous puissions être en feu pour toi. On va chanter avant de...